BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on est sur cette deuxième heure de BFM Patrimoine. On retrouve dans un instant nos invités de regard croisé. Mais d'abord, un détour par les marchés. Sarah Thirion qui nous attend chez TPI Cap. Bonjour Sarah.
Bonjour Cédric.
Bon, on hésite là. On se demande un petit peu sur quel pied danser, non ?
On est dans le vide. Il ne faut pas se poser la question de savoir sur quel pied on danse. Il est pas, enfin, la danse est plutôt compliquée. Et les choses restent quand même très détériorées sur absolument tous les fronts. La Russie qui continue d'acheter des munitions d'artillerie à la Corée du Nord, visiblement la paix ne fait pas partie des projets immédiats de la Russie. Ce conflit qui continue d'amplifier la situation énergétique en Europe, la perspective de récession qui ne souffre probablement de très peu de doutes, sauf si effectivement il y avait un arrêt de cette guerre en Ukraine. La Chine qui poursuit les confinements et qui vient peser sur nos indices et certains secteurs en particulier. Gazprom qui rejette la faute sur Siemens Energy, mais bon, a priori Siemens n'a jamais été sollicité pour les travaux de réparation. Et puis tout ce contexte qui continue d'alimenter une tension géopolitique beaucoup plus large que celle de l'Europe de l'Est, puisque on voit vraiment ce que l'on craignait, c'est-à-dire la formation de deux blocs transatlantique et Russie-Asie. Le ministre de l'énergie russe ayant déclaré effectivement que s'il y avait un plafonnement des prix du pétrole russe, il expédierait davantage en Asie. Donc, on monte dans le vide ce matin parce qu'il n'y a aucune bonne raison de monter, d'autant plus qu'en Allemagne, on a eu ce matin des commandes à l'industrie qui ont reculé pour le sixième mois consécutif et dans des proportions plus importantes que prévues. On a la réouverture de Wall Street qui se profile, mais enfin voilà, je ne pense pas que l'enthousiasme soit de rigueur dans le contexte actuel. La récession, elle est devant nous, elle est un peu pour tout le monde, mais beaucoup plus évidemment pour l'Europe, avec la persistance de ce conflit, la détermination des banques centrales pour essayer de faire ce whatever it takes contre l'inflation. Mais quand l'inflation est due à un choc d'offres, je pense que c'est notoirement inefficace. Donc voilà, quand on regarde aujourd'hui les grands mouvements, le oil and gas qui évidemment repère un peu de terrain après la décision de l'OPEP hier de réduire seulement de 100 000 barils le jour sa production, qui va pas changer grand-chose à la donne. Et puis de l'autre côté, toujours les mêmes incertitudes évidemment sur la teneur de la demande et le fait que les majors soient potentiellement assujettis à une taxation spéciale. Et puis il y a juste eu donc ces négociations exclusives Safran-Thales pour venir agiter un tout petit peu la microéconomie aujourd'hui.
Voilà donc le regard général sur la séance en cours. Après, il y a quelques dossiers qui méritent peut-être qu'on les regarde. Thales notamment et Safran, on commence par quoi ?
C'est la même chose, en fait, c'est le même sujet, puisque Safran est entré en négociation exclusive avec Thales pour acquérir son activité de système électronique aéronautique. Donc, c'est pas un deal énorme, puisqu'on parle d'une branche qui, chez Thales, a matérialisé 124 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. En revanche, c'est une branche critique importante pour Safran, puisque c'est un acteur de la conversion électrique qui est présente dans la génération de puissance et des moteurs électriques pour l'aéronautique civile et militaire. Et donc, cette acquisition par Safran permettrait de continuer effectivement de bonifier la maîtrise de la chaîne électrique et donc pour Safran d'avoir une stratégie de positionnement sur l'intégralité de cette chaîne électrique et donc d'alimenter son business model. Côté Thales, l'opération de cession ferait sens puisque, on le sait, Thales a une stratégie de recentrage en cours sur ses métiers corps que sont l'aérospatiale, la défense et sécurité, l'identité et le numérique. Donc pour l'instant, les deux groupes ont communiqué sur des négociations exclusives. Le montant de ce projet n'a pas été dévoilé. On en a le périmètre et les deux sociétés d'indiquer simplement que sous réserve des autorisations réglementaires usuelles, l'opération pourrait être réalisée dans le courant de l'année 2023, ce qui reste relativement flou. Mais de part et d'autre, il y a un rationnel industriel et économique pour effectivement cette transaction.
Merci beaucoup Sarah. Sarah Thirion donc, TPI Cap qui nous accompagnait ce matin et le marché parisien qui pour le moment grignote 0,01%, 6094 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Autour de la table ce matin, Marc Touati et Mathieu Bailly. Bonjour messieurs.
Bonjour Cédric. Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Marc Touati pour le cabinet Assez Défis et Mathieu Bailly pour Octo AM. D'abord, votre regard sur la tendance. Alors, n'ayons pas le nez dans le guidon, regardons les choses de façon un petit peu plus longue. Premier semestre assez piètre, hein, avec de pires performances historiques pour pas mal d'actifs, et puis une petite récupération, et puis là on a l'impression qu'on pédale un peu dans la semoule. Comment vous voyez les choses, Mathieu ?
Oh bah on les voit un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que les sujets ne sont pas des sujets habituels de l'analyse financière. C'est une guerre, c'est des ruptures de diplomatiques entre des zones qui avaient eu l'habitude depuis au moins une vingtaine d'années de travailler ensemble, qui s'ajoutent aux crises qu'on avait déjà par le passé, c'est-à-dire sortie de la crise sanitaire Covid qui avait créé des ruptures d'approvisionnement. C'est la Chine. Donc la plupart des sujets sont totalement incertains et peuvent se résoudre très rapidement ou pas du tout. Et du coup, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des investisseurs qui sont un peu dans l'attente et du coup créent cette volatilité là. Nous aujourd'hui, on essaye de se concentrer sur. Enfin, en gros, notre solution, si on peut dire, c'est de se dire évitons les sujets sur lesquels on n'a pas la main. Donc les sujets macro. Alors c'est difficile de faire de l'économie sans faire des sujets macro. D'aller malgré tout dans des sociétés qui sont aussi prudentes que nous et qui sont aussi dans l'incertitude. En général, on peut avoir un peu plus de visibilité sur des entreprises un peu plus locales, sur des entreprises qui vont qui vont montrer dans leurs résultats qui résistent à l'inflation ou qui peuvent. On a beaucoup entendu la shrinkflation, c'est pas forcément très bon hein, pour l'économie ou pour les ménages, mais ça permet à des sociétés de passer ce genre de crise.
On rappelle, hein, c'est par exemple
c'est réduire
la canette
la taille des emballages,
qui fera 30 centilitres au lieu de 33 et qu'on vous vend un tout petit peu plus cher.
Ou changer les ingrédients qu'on a dedans, ou voilà. Mais disons voilà, c'est éviter en fait ces sujets sur lesquels on n'a pas du tout la main, les taux, la macro, la géopolitique, et se concentrer sur des sujets où on a un peu plus de visibilité.
Marc,
Moi je dirais que c'est un peu plus structurel que ça, c'est-à-dire que malheureusement je pense que le monde a vraiment changé, c'est mon nouveau livre, hein, Reset 2 effectivement, bienvenue dans le monde d'après, parce que ce monde d'après, il est en train de s'installer et malheureusement il ne se donne pas tellement envie, c'est-à-dire que bon, on voit il y a une inflation qui s'installe, alors c'est vrai qu'il y a un élément conjoncturel, mais quand on parle effectivement de la transition énergétique, ça va être inflationniste, donc l'inflation va rester sur des niveaux élevés, même lorsqu'on va, espérons-le très vite, arrêter cette guerre en Ukraine. Pareil, aujourd'hui, je vois tout ce discours sur cette décroissance qui devient normale. Entre guillemets, aujourd'hui, c'est nous, quand on prône la croissance, c'est nous qui sommes devenus anormaux. Vous voyez, c'est un peu comme pendant le coronavirus. Et je pense que ça va avoir effectivement des impacts comme ça, durables. On s'est habitué, finalement, à ce que, ben voilà, on reste chez soi, puis le gouvernement, avec le quoi qu'il en coûte, on va nous aider. On ne veut plus affronter la réalité. Ça, c'est extrêmement dangereux. Vous voyez, sur l'inflation, par exemple, aujourd'hui, on nous dit, ben, ne vous inquiétez pas, on va maintenir le bouclier tarifaire, là. Mais évidemment que l'inflation, c'est un fléau. Ça c'est sûr, mais le problème c'est que tôt ou tard on va devoir s'affronter à cette réalité, et quand on va arrêter le bouclier tarifaire, là on aura la réalité des prix, et donc certains pays redémarreront à ce moment-là, et c'est là où nous allons plonger, sauf qu'entre temps, et ça c'est pour moi la clé, c'est la dette publique qui est déjà énorme, qui a déjà augmenté de 560 milliards pendant deux ans du coronavirus. Alors, on continue de l'augmenter. La grande différence, c'est que pendant le coronavirus, c'était la Banque Centrale Européenne qui finançait cette dette, à travers de la planche à billets. Donc, le quoi qu'il en coûte, il coûtait rien. Sauf que maintenant, le quoi qu'il en coûte, il coûte très cher. Donc, les taux d'intérêt, là aussi, on retrouve un monde normal. Les taux d'intérêt qui remontent. C'est le monde d'avant qui était pas normal. Quand on disait, on a une dette qui explose, on a 0% de taux d'intérêt. Non, ça, c'était pas normal. Maintenant qu'on a le taux d'intérêt dette publique qui remonte, là, on est sur le taux de 10 ans français à 2, le taux grec, on est à 4,2. Oui, c'est-à-dire on retrouve des niveaux, j'ai envie de dire normaux, mais aussi inquiétants. Et ça, bien entendu, malheureusement, j'espère qu'on va vite sortir de cette guerre et qu'on va retrouver effectivement une économie un peu plus normale. Mais ça, c'est des éléments structurels qui malheureusement vont rester. Donc, pour répondre à la question, Cédric, effectivement, les marchés, qu'on a eu un premier semestre difficile, il y a une petite accalmie pendant cet été parce qu'on se dit, bon, finalement, bon, l'inflation va pas durer, tout va bien dans le meilleur des mondes. Puis là, on se rend compte que c'est vraiment la stagflation. C'est-à-dire, on a une récession qui est en train de s'installer. On a eu les indicateurs d'achat hier. L'inflation qui reste élevée. Et donc, ça, évidemment, ça veut dire que c'est pas forcément très bon pour, oui. pour les marchés boursiers.
D'autant qu'on a des banquiers centraux qui assument leur position. Ils l'ont dit à Jackson Hole, on attend la Banque Centrale Européenne qui, a priori, devrait nous servir 75 points de base. C'est-à-dire, tout simplement, sa hausse la plus forte historiquement. Je crois qu'il y en avait une un petit peu du genre dans les premiers échanges de la BCE, si je me souviens bien. Comment est-ce que vous vous positionnez face à ce discours très assumé des banquiers centraux? Une forme de quoi qu'il en coûte inversé, quoi.
En fait, les banquiers centraux sont un peu dans un dilemme entre cette inflation et les déficits publics. Je pense qu'ils veulent aller le plus vite possible et le plus fort possible pour se donner des cartouches pour dans 2-3 ans, parce que en imaginant que les sujets actuels durent un peu, la récession notamment, ils seront obligés de lâcher un peu la bride et de trouver des nouvelles solutions. Ils ont annoncé... Alors, après, ils sont un peu... ce dilemme-là, ils ont du mal à le résoudre, et on voit bien avec l'Italie, dès que les taux ont flambé en juin, la BCE a dit on va monter les taux, mais on trouvera de nouveaux outils qu'ils n'ont toujours pas détaillés. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont parlé d'outils anti-fragmentation pour éviter le terme périphérique, mais ça a permis de réduire le taux italien qui était monté à 4 et qui est redescendu assez vite autour de quasiment en dessous de 3. Ils ne l'ont pas détaillé, mais on les voit encore acheter beaucoup de dettes italiennes aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Italie va aujourd'hui mal. C'est un des pays qui est le plus touché par la hausse de l'énergie. Ils ont besoin de continuer d'emprunter parce qu'ils sont encore en déficit budgétaire élevé. Et pourtant, leur taux ne monte pas énormément, alors que vous voyez beaucoup d'investisseurs qui shortent, notamment étrangers, hein, la dette italienne. Pourquoi ? Parce que la BCE continue d'acheter massivement de la dette italienne. Donc d'un côté, ils disent on va augmenter les taux courts, mais d'un autre côté, sur la partie des taux longs, ils continuent d'avoir cette politique malgré tout ultra accommodante. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... et c'est ça aussi qu'attendent les marchés, c'est plus de clarté. Parce qu'aujourd'hui, on a une banque centrale... spécialement en Europe, hein, qui n'est pas aussi claire qu'elle a pu l'être par le passé. Probablement, s'ils annonçaient clairement ce qu'ils vont faire et qu'ils soient cohérents entre le discours et les actes, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on augmente de 0,7%. Enfin, franchement, si vous avez un projet et que... on était quand même en taux négatif, hein, donc on passe des taux négatifs à zéro. Jusqu'à présent, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, une cohérence entre ce discours volontariste et puis des actes qui continuent finalement de maintenir des taux bas assez artificielle. Et d'ailleurs, la variable d'ajustement, ça a été l'euro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une différence entre la rémunération de ce qu'on touche, ce qu'on a dans les taux souverains européens, et le risque. Et du coup, les investisseurs étrangers se disent « je n'en veux pas ». On a vu que l'euro est passé sous un dollar en quelques semaines.
Ce que dit Mathieu est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un problème de crédibilité des banques, et peut-être plus singulièrement de la Banque Centrale Européenne. Exemple, le petit scénario qui tourne dans quelques notes, quoi, c'est de se dire « on va remonter de 75 points de base, et puis dans les heures qui suivent, l'euro va continuer à glisser ».
Moi, je pense que ça, c'est quand même le vrai enjeu de 2022, c'est l'échec de la Banque Centrale Européenne, parce que c'est vrai qu'en 2021, je l'avais dit ici même, il y a plus d'un an, l'inflation va remonter, et puis les banques centrales américaines ou européennes disaient non, vous inquiétez pas, l'inflation c'est transitoire. Vous vous souvenez, hein, ce terme, il y avait beaucoup d'économistes...
Pendant longtemps, tout le monde l'a pensé, quoi.
Encore une fois, non, on avait des indicateurs avancés, par exemple, qu'on appelle les prix à la production, qui étaient en train de flamber, donc on savait bien que ça allait arriver sur les prix à la consommation. Ça, c'était avant même la guerre en Ukraine, faut quand même pas l'oublier. Et donc, il y a eu un déni de réalité, faut dire les choses. Et fin 2021, donc avant la guerre en Ukraine, Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, a fait son mea culpa. Il a dit oui, effectivement, on s'est trompé, on aurait peut-être dû monter un petit peu le taux, ou du moins arrêter la planche à billets. Maintenant, on va inverser la tendance. Et c'est ce qu'il a fait. Alors que nous, encore aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne n'a toujours pas fait son mea culpa. Donc c'est ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un problème de crédibilité. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Puis, ou alors, est-ce qu'il sait conduire? Parce que c'est ça la vraie inquiétude. Aujourd'hui, on va augmenter le taux d'intérêt de 75 points de base, mais oui, mais à quoi ça sert? On est en récession. Vous voyez, il y a un problème. Ben oui, parce qu'on a laissé filer l'euro. Ça, c'est un manque de crédibilité. J'ai même plutôt une défiance. Et ça, c'est très dangereux, parce que là aussi, aujourd'hui, la dette publique italienne est attaquée, on le sait gentiment, et la BCE met des sommes folles. On ne sait pas combien, à mon avis, c'est pas mal de milliards. On verra bientôt les chiffres sur le bilan de la Banque Centrale Européenne. Et c'est peut-être à fond perdu, tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter l'inévitable. Hein. Ça me rappelle quand il y avait la spéculation contre la livre de sterling il y a très longtemps. Ben, globalement, il fallait que la livre sterling soit dépréciée, parce qu'elle ne pouvait pas tenir. venir. Ben là, c'est pareil aujourd'hui sur l'Italie. Si le 25 septembre prochain, on a un gouvernement europhobe qui gagne les élections et qui donc qui prend la tête de l'Italie, ah là, la Banque Centrale Européenne, elle va être bien embêtée avec cette dette italienne. Vous voyez, donc, c'est ça qui est dangereux. Là, la Banque Centrale Européenne n'est pas dans son rôle. N'oublions pas que le rôle de la Banque Centrale Européenne, numéro 1, c'est de limiter l'inflation à 2%. Nous sommes à 9,1% d'inflation, un sommet historique. Donc, excusez-moi, c'est 0 sur 20.
Parce que, d'accord. Et quels outils, dispose la Banque Centrale Européenne aujourd'hui?
C'est ça le problème.
Pour juguler l'inflation, dans une période, comme vous l'avez rappelé, où l'économie chancelle.
Alors, tout l'enjeu est là, c'est que l'important pour la BCE, c'est de retrouver sa crédibilité. Aujourd'hui, pour limiter l'inflation, déjà, il faut stopper la baisse de l'euro. Parce que n'oublions pas que quand l'euro baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés, notamment des matières premières qui sont libellées en dollars.
Donc, il faut qu'elle achète
donc,
de l'euro.
Donc, ça fait augmenter l'inflation. Non, il faut qu'effectivement, elle monte les taux d'intérêt et qu'elle dise je ne lâcherai rien. C'est-à-dire que mon objectif, c'est l'inflation, comme fait la Réserve fédérale. De toute façon, il faut être honnête, il faut dire la vérité. Comment on sort d'une phase de forte inflation? C'est toujours la même sortie dans l'histoire de l'humanité. On en sort par une récession, malheureusement. Donc, le discours de la Fed, c'est dire on va faire une récession rapide, le plus rapide possible, pour casser effectivement l'inflation, en espérant que cette guerre en Ukraine va s'arrêter, que les prix des matières premières vont repartir à la baisse. D'accord. De toute façon, eux aussi repartiront à la baisse. Parce que quand la croissance mondiale va s'effondrer, les prix des matières premières repartiront à la baisse. Et donc, soit on fait ça, soit on dit non, mais on va attendre, on va acheter de la dette publique, etc. Et ça, c'est très dangereux, parce que, encore une fois, c'est une fuite en avant qui va nous coûter très cher. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile, c'est de retrouver la crédibilité. Et n'oublions pas que effectivement, la Banque Centrale Européenne, ben, c'est une banque centrale de plusieurs pays. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de dissensions.
One size fits all, quoi.
Eh oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de dissensions entre notamment Mme Lagarde et effectivement les dirigeants de monétaires allemands et hollandais. Donc là, ça va être un petit peu compliqué.
Bon, voilà donc pour le côté Banque Centrale Européenne. Autre petite digression, allez, mais on en a souri il y a quelques minutes. On a entendu Boris Johnson faire ses adieux devant le 10 Downing Street en accueillant sa successeuse et pousser un cocorico, alors je ne sais pas comment on dit en anglais, kirikiki, je crois.
The Queen.
Queen. Voilà, ça vous a tous les deux, je casse un peu le off, mais ça vous a tous les deux fait sourire quand même d'entendre tout ça.
Alors, d'ailleurs, on n'est pas les seuls, hein, parce que si on prend, il y a quelques temps, beaucoup de fonds spéculatifs, comme on dit, jouaient la baisse de l'euro et commencent à couper leur position aujourd'hui, parce que ça s'est matérialisé, et se positionnent aujourd'hui sur la livre, massivement. C'est vrai que le Brexit était pas forcément le bon timing pour les Anglais, qui se retrouvent assez isolés dans une conjoncture où les blocs et la force de négociation vient de la puissance des blocs. Aujourd'hui, ils sont quand même dans une situation où ils souffrent beaucoup plus encore que l'Europe de l'inflation, des matières premières, du fret. Et on voit mal comment l'Angleterre pourrait se passer, effectivement, comme nous, mais encore plus d'une récession.
La nouvelle locataire de Downing Street, je crois, va être obligée de valider une hausse de 80% des factures de...
Moi, je me méfie quand même des Anglais, parce qu'ils s'en sortent toujours. C'est-à-dire, le Brexit, ça soit... le Brexit, on l'a bien vu, ça n'a pas été la catastrophe annoncée, il faut être honnête. Je veux dire, bon, alors c'est vrai que ça n'a pas été un hard Brexit, heureusement d'ailleurs, même pour nous d'ailleurs, mais finalement... Bon, après, est arrivé le coronavirus, bon, bien entendu. Moi, je pense qu'effectivement, Johnson, c'est ça qui me faisait sourire, c'est qu'il dit, ouais, on a une économie très forte, tout va très bien. Bon, il n'a pas regardé les chiffres. C'est ça qui m'a fait sourire. C'est vrai que globalement...
Vous avez dit c'est un sketch.
Ouais, c'est un sketch. C'est-à-dire, mais d'ailleurs, il n'y a pas que lui. Hein. Je veux dire, moi, je me souviens, dans nos jeunes années, hein, Cédric, il y avait les guignols de l'info à l'époque, vous savez, c'est les marionnettes. Et maintenant, c'est-à-dire, la réalité, c'est pire que les guignols de l'info. C'est-à-dire, vous voyez ce qu'il y avait, d'ailleurs, c'est pourquoi il n'y a plus de guignols de l'info, ça ne sert à rien. Parce qu'on l'a en temps réel, si vous voulez. Donc, c'est vrai que c'est assez incroyable. Aujourd'hui, quand on voit les déclarations des dirigeants, à l'envie de Johnson, on pourrait même malheureusement chez nous. Bon, c'est assez incroyable, ce que je veux dire. Donc, on est en train aujourd'hui de disserter, c'est que sur le PSG, ils ont pris l'avion plutôt que le train, etc. Mais c'est pas sérieux tout ça. Attendez, ça me fait penser au Titanic, si vous voulez, avant de sombrer, on jouait de la musique, on jouait de l'orchestre jouer. C'est pas sérieux. On a quand même des problèmes, je dirais, extrêmement importants. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est dire la vérité. Et donc, aujourd'hui, ce qu'en dit Johnson, dit on a une économie britannique extrêmement forte, bon, c'est quand même pas le cas. Par contre, c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas de bouclier tarifaire. Alors là, a priori, elle va prendre des mesures, justement, de soutien, notamment aux ménages défavorisés. Et puis là aussi, hein, je veux dire, les Anglais, comme les Français, ont eu un discours sur les Russes en disant, on va les écraser, on va les mettre à terre. Vous voyez, bon, Encore une fois, je dis pas, je suis pas pro-russe, hein, c'est simplement que quand on regarde hier les chiffres des directeurs d'achat, moi j'ai surpris le au niveau aujourd'hui, si on regarde l'indicateur directeur d'achat, donc composite, ça veut dire tout secteur confondu, la zone euro est tombée en récession, alors que les Russes ils sont en croissance. Ça fait deux mois consécutifs qu'ils sont en croissance. Bon, c'est encore une fois, c'est pas les Russes qui ont fait ce chiffre, c'est S&P Global, c'est-à-dire c'est un organe indépendant privé. Donc ça veut bien dire qu'il y a un petit problème. Donc on est très bon pour parler. Après pour les actes, c'est un peu plus compliqué. Moi j'ai envie de dire aujourd'hui, il faut se retrousser les manches et arriver justement à faire cette croissance plus forte. Mais ça tombera pas du ciel parce qu'on va devoir gérer cette forte inflation. Et moi pour moi le seul moyen justement, c'est d'arrêter cette guerre au plus vite. Alors encore une fois, d'un point de vue diplomatique, je pense qu'on n'a pas tout utilisé, mais il faut vraiment tout faire. C'est le seul moyen. On le sait très bien. Et même les Russes, c'est le paradoxe. Ce qui a renforcé les Russes, c'est juste la flambée des cours des matières premières. Si demain on a un contre-choc pétrolier, enfin que les cours des matières premières baissent, c'est là où on va affaiblir la Russie. Vous voyez donc, mais là aussi, malheureusement, on n'a pas le courage, on n'a pas les dirigeants politiques qui sont à la hauteur de la situation.
Voilà donc pour l'aspect européen. Un petit mot aussi de ce qui se passe en Chine. Parce que là aussi, économie un petit peu dans le marasme, mesure de soutien, et on a l'impression que c'est un peu du mal à convaincre à un moment où la Chine est un peu un tournant important. Il y a le congrès qui se profile, la reconduction, alors je ne sais pas s'il faut dire réélection, renomination, sacre de Xi Jinping. Comment vous voyez les choses en Chine? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que... Mathieu?
Alors, autant ça pouvait inquiéter quand on était dans une situation du monde un peu plus normale. Aujourd'hui, si on doit relativiser les sujets, c'est plus le sujet majeur, dans la mesure où si on tombe en récession, on consomme moins, et à la limite qu'il y ait moins de biens qui viennent de Chine parce qu'il y a des blocages, c'est peut-être même moins important. Le sujet chinois, de toute façon, il est pas... il y a des échéances à 6 mois, mais de toute façon il est plutôt à 50 ans. Il résonne à 50 ans, ou voire plus. Donc finalement, là aujourd'hui, il n'y a pas plus de sujets qu'il y en avait il y a 6 mois. Ils essayent de lutter contre cette récession pour des raisons uniquement politiques. L'immobilier est en train de fléchir, mais ça, on a eu la même chose aux États-Unis il y a 10 ans, et ils trouveront les solutions qu'il faut. C'est-à-dire que bon, on voit des immeubles qui sont détruits, etc. Est-ce que ce sont des immeubles anciens ou nouveaux? On n'en sait rien. Les crises immobilières sont des crises annonciatrice de crise économique à la suite. Pour autant, il y a un marché intérieur en Chine qui reste encore à créer. Et pour le coup, c'est pas... pour moi, c'est moins un sujet que ça ne l'était en sortie de crise du coronavirus, parce qu'on avait moins d'autres problèmes aujourd'hui en Europe.
Enfin, bon, juste deux points. C'est vrai que la Chine, c'est quand même, faut pas l'oublier, la locomotive de la croissance mondiale. Donc, si la Chine s'effondre,
mais là, pour le moment, fera-t-on simplement, si vous voulez, quand je vois l'objectif affiché du pouvoir?
Quand je vois les images de la Chine, je me dis heureusement que nous sommes en France. On a une chance incroyable de vivre dans une démocratie. Si vous voulez, même si elle est pas parfaite, mais je veux dire, le problème de la Chine, c'est que c'est quand même une dictature. C'est-à-dire, on peut détruire des immeubles comme on veut. Evergrande, qui était effectivement monté au pinacle, maintenant on le détruit complètement. Enfin, c'est pour une décision du Parti communiste, quoi. Finalement, c'est assez incroyable. Donc, on se rend compte, là aussi, quand on a des dérives, justement, un petit peu dictatoriales, qu'on a de la chance de vivre dans une démocratie. Mais par contre, c'est vrai que les Chinois, moi, c'est ça, c'est comme pour les Anglais, il faut pas les sous-estimer. Et surtout, ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre que les Anglais. N'oublions pas que les Chinois ont encore plus de 3000 milliards de dollars de réserves de change, qu'ils peuvent utiliser à l'envi. Hein. N'oublions pas qu'ils ont encore une dette publique relativement faible, qui peuvent là aussi augmenter. Ils peuvent déprécier le yuan, d'ailleurs c'est ce qui se passe aujourd'hui, pour soutenir leurs exportations. Et puis les chiffres, hein, les excédents commerciaux chinois, alors, regardez les chiffres, hein, 860 milliards de dollars d'excédents commerciaux sur les 12 derniers mois, c'est un record absolu pour la Chine. Donc même s'ils vont pas très bien, ils arrivent encore effectivement à exporter, et donc ils vont rester, je pense, avoir une petite récession, mais rester sur une croissance relativement forte, parce qu'ils ont ce que j'appelle des airbags. Ils ont des moyens de résister effectivement aux difficultés, ce que nous, malheureusement, nous n'avons pas. Et donc c'est ça la tristesse, c'est que ça a été la Chine était un des grands gagnants, une des grandes gagnantes de la crise du coronavirus, et là je pense qu'elle résistera encore. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que justement on a ce monde un peu bipolaire qui est en train de s'installer, donc où le monde qu'on a appelé émergent, qui est émergé depuis bien longtemps, mais là il est vraiment en train de s'imposer. Et nous, malheureusement, on joue un peu le second rôle, c'est ça qui est dangereux. Mais je pense que, vous savez, comme on dit, la caravane passe, et voilà, les chiens voient la caravane passe. C'est-à-dire, c'est ce qui va se passer, la Chine va avancer quoi qu'il arrive, malheureusement.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc Mathieu Bailly pour Octo AM. Merci Mathieu et Marc. Toi qui donc pour la CDFI, et donc Reset 2. dans toutes les bonnes librairies.
Bienvenue dans le monde d'après. Tout à fait, qui marche très bien. Merci beaucoup pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir.
À très bientôt. Le marché parisien, lui, eh bien, il continue à se montrer hésitant. On grignote un peu de terrain. Moins 0,12, 6100 points. Est-ce que c'est un seuil important? On va poser la question dans un instant à Romain Daubry. Et puis, vous n'oubliez pas, évidemment, les replays qui vous permettent de réentendre tout ou partie de l'émission à votre convenance sur notre site ou sur les plateformes partenaires.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et pour entamer cette dernière demi-heure, direction les marchés, comme régulièrement tout au long de l'émission, pour suivre les évolutions de cette tendance. Et Romain Daubry, qui nous attend au sein de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Rebonjour Romain. On était assez hésitant tout à l'heure, et puis finalement on semble vouloir y croire, et on revient au-dessus des 6100. C'est un seuil qui a son importance ou pas tant que ça?
Rebonjour Cédric. 6100 pile, c'était un seuil intermédiaire, mais on a identifié un petit niveau intraday au-delà de 6084 sur le futur CAC 40, qui était déjà payé deux fois pour faire des petits écarts intraday. La notion de la situation de trading range probable pour les semaines à venir se confirme. Et donc on va avoir des trading ranges plus ou moins hauts et plus ou moins importants, mais pour l'instant, les vendeurs ont toujours la main. Ça ne nous interdit pas pour autant de faire des petites stratégies acheteuses, d'autant plus qu'on a noté cette diminution de la pression baissière sur le futur CAC 40. Que le futur CAC 40 pour l'instant, on le disait, mais qui a eu lieu hier. Donc des petits écarts et des indices qui se tiennent plutôt et qui testent des niveaux de support importants. Si on regarde le Nasdaq par exemple, c'est la zone 11 985 12 190, dans laquelle il y a une petite au niveau de laquelle il y a une petite réaction pour l'instant. On pourrait au mieux viser des accélérations jusqu'à 12 865, et là pour le plus large, pourquoi pas le gap du 22 août dernier. Je pense que ce sont le terrain de jeu pour les jours ou pour les semaines à venir. Même à la baisse, on peut aller chercher des extensions toujours sur le Nasdaq 100 dans une zone 11 735 11 835, sans que ça remette en cause la tendance. Mais il faudrait pas rester dans cette zone là on peut la tester en intraday et qu'il y ait des réactions. Ça pourrait être des points d'entrée qui peuvent intéresser les opérateurs. Il faut rappeler que on a une zone de construction qui s'est formée entre mi-juin et mi-juillet et fin juillet, de 5 semaines, pendant laquelle, tous les replis ont été payés. Il y a une zone d'accumulation qui est visible sur tous les indices et qu'on n'a pas de raison de rompre dans l'immédiat. Ou en tout cas, si on la rompait, ce serait un signe très négatif pour le marché. C'est pas le scénario qu'on privilégie, mais on peut pas l'exclure dans le contexte et avec cette absence d'opérateurs. Donc l'absence d'opérateurs, le marché très creux, l'absence d'intérêt fait que on a des risques de décalage rapide dans un sens comme dans l'autre sur des news, mais c'est plutôt bien et pour l'instant ça reste hyper technique. Alors si on regarde le S&P 500, on l'avait donné la semaine dernière ensemble une cible à 3903 points, il est descendu à 3903.65. C'est-à-dire que le marché reste très technique et que tant que c'est le cas, c'est tout ça est canalisé, ce sont des mouvements liés plutôt à la spéculation. Et il n'y a pas beaucoup d'initiatives de la part des opérateurs et des grosses mains dans ce contexte de manque de visibilité et probablement assez long. Si on rebondit sur le S&P, on peut cibler 4013 au mieux, et on a le droit d'aller tester 3810, 3838, mais pas plus sur cet indice-là. Ce serait pas terrible. Donc on n'a pas vraiment de raison de payer à court terme. Le marché a l'air quand même de vouloir stabiliser sur des points bas. Sur le CAC 40, on le rappelle, c'est la zone 5838-6036 qui était la large zone d'accumulation du début de l'été, et on peut donc au mieux tester sur des creux en très court terme, un petit peu en dessous de ces niveaux de 6000, mais il faut pas aller trop s'installer en dessous. Stratégiquement, on peut dire aussi qu'il y a des petites choses qui se passent en stock picking. Il y a un peu d'intérêt, on le voit, il y a des valeurs en retard. Atos semble sortir d'une zone de congestion et elle donne un signal haussier, donc on y est rentré à nous à titre investisseur pour un rebond qui peut être intéressant d'une trentaine de pourcents quand même sur le titre. Il y a des petits arbitrages à faire aussi, on le voit sur des valeurs comme Aramis qui bénéficie bien d'une recommandation, enfin d'une annonce, et qui paye. C'est un petit peu tard, le titre prend déjà plus de 10%, mais il y a encore une quinzaine de pourcents à prendre sur le mouvement. Donc il y a des écarts, il y a des arbitrages, il y a quand même de l'intérêt qui sont très ciblés, et je pense qu'il faut être capable de faire ça dans ce marché. Beaucoup, beaucoup de stock picking et de détails. Un dernier actif qui est intéressant là, c'est l'argent au-dessus de 18,20. On peut cibler 18,64 et pourquoi pas un petit mouvement jusqu'à 19,02. Donc des petits arbitrages et des écarts comme ça dans un marché qui est pour l'instant dans le brouillard.
Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, donc Bourse Direct, qui nous accompagne toutes les semaines sur ce marché pour prendre le pouls technique de la séance. Très bonne journée sur le marché. Le CAC qui grignote 0,3%, 6110 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine.
Et on accueille à présent Delphine Pasquier. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour l'ingénierie patrimoniale de Bread Banque Privée. On va essayer d'aider nos enfants, notamment à se loger et de trouver du coup la bonne méthode, de s'y prendre comme il faut. Alors d'abord, quand on possède un logement libre, c'est presque ce qu'il y a de plus évident, on va dire, c'est plutôt simple de le mettre à disposition de ses enfants, non ?
Exactement, exactement. Mais ceci dit, il y a quand même des distinctions à faire selon les situations.
C'est-à-dire ?
C'est vrai qu'au départ, on se dit, bon, j'ai des enfants qui, après l'été, prennent leur envol, ils poursuivent leurs études, ils n'ont pas encore de job, ils ont besoin de se loger, c'est normal, je vais les aider, et si je détiens moi-même un logement, je vais pouvoir leur mettre à disposition. Tant que les enfants ne sont pas en mesure eux-mêmes de subvenir à leurs besoins, on n'a pas de problématique. Finalement, cette aide familiale, cette entraide intergénérationnelle, elle est prévue par le Code civil. Elle est même obligatoire dès lors que les parents en ont les moyens. Donc, pas d'implication juridique. Et mieux encore, quand on aide ses enfants, on peut avoir un petit avantage fiscal puisque on a le droit de déduire les sommes que l'on a apportées pour l'entretien de ses enfants de ses propres impôts dans la limite de 6042 euros par enfant majeur.
Bon, et ça, quel que soit, enfin, je veux dire, il y a pas, c'est pas comme les présents d'usage, il y a pas de rapport. Enfin, je veux dire, si on a envie de loger son enfant dans un duplex d'une grande métropole européenne, c'est bon, quoi.
Ça fonctionne, effectivement. Bon. C'est ce qu'on appelle l'obligation alimentaire et d'entretien. Bon. Donc c'est une obligation, ce n'est pas une donation. Tout va bien.
Bon, je sens bien quand même dans votre discours que vous nous dites tout va bien, mais qu'il pourrait y avoir un mais. Ça peut poser des difficultés ?
Effectivement, vous avez raison, ça peut poser des difficultés. Et quand est-ce que ça va poser des difficultés ? Eh bien, quand la situation évolue. Les enfants finissent leurs études, ils commencent à travailler, ils ont des revenus. Eh bien, à ce moment-là, l'aide apportée ne relève plus de cette obligation alimentaire et d'entretien. Et là, du coup, on a des risques de mésentente familiale à venir. Est-ce que ce sera rapportable à la succession ou non ? C'est notamment la question qu'on doit se poser.
Donc, si je comprends bien, la première question qui est, enfin, le premier moment où il faut se poser la question, c'est quand on a plusieurs enfants. Parce que si on n'en a qu'un, c'est pas le fisc qui va venir chercher les poux dans la tonsure, c'est ?
Alors, ça dépend. Parce que, imaginons que vous laissiez un appartement en jouissance à votre enfant, alors qu'il a lui-même les moyens de subvenir à ses besoins. L'administration fiscale serait tout à fait en droit de requalifier cette situation en donation indirecte. Alors, c'est vrai que, là encore, la jurisprudence a évolué dans le temps. Jusqu'en 2012, cette requalification, elle était, on va dire, presque quasi systématique.
Ouais.
Parce qu'en fait, il suffisait de prouver que les parents s'étaient appauvris en ne percevant pas les loyers auxquels ils avaient droit pour qu'il y ait qualification en donation indirecte. Depuis 2012, la situation s'est resserrée, redurcie au bénéfice des parents, puisqu'il faut non seulement prouver leur appauvrissement, mais il faut également prouver leur intention libérale.
D'accord.
Et c'est là où c'est un petit peu plus délicat. Mais ceci dit, le risque existe, bon. Donc il faut y faire attention.
Revenons au premier cas, celui où il y a donc plusieurs enfants et où ça peut poser difficulté. Comment est-ce qu'on peut résoudre ou limiter l'étendue des difficultés ?
Eh bien, plusieurs solutions sont possibles. Quand on met à disposition un logement, on a plusieurs possibilités. Première possibilité, on prête le logement. Deuxième possibilité, on en donne la jouissance temporaire ou pour une période toute la vie entière. Ou troisième possibilité, si on n'a pas soi-même de logement, on peut conclure un bail en lieu et place de son enfant et payer le loyer à la place. Ou alors, si on a un logement, le louer à son enfant sans percevoir soi-même les loyers. Et donc, chaque solution va avoir des implications juridiques et fiscales différentes.
Et il y en a une que vous recommanderiez plus que l'autre ou...
Pas forcément. D'accord. C'est vraiment en fonction, finalement, de ses propres attentes et de l'équilibre que l'on souhaite vis-à-vis de l'ensemble de ses enfants.
Bien sûr.
C'est vrai que parfois, même si les enfants commencent à travailler, tous n'ont pas forcément les mêmes capacités et on aura envie d'aider plus particulièrement un enfant qu'un autre sans que ce soit rapportable à la succession. Dans ce cas-là, je vais opter pour le prêt à usage ou commodat de mon logement. Je vais formaliser le prêt du logement à mon enfant. Alors, c'est important de bien le formaliser parce qu'un prêt à usage, le principe, c'est qu'il s'éteint quand l'emprunteur n'en a plus besoin. Ça peut durer longtemps. Ça peut durer très longtemps.
Juste, petite digression, ça a un coût. Enfin, quand vous dites formaliser, c'est quoi ? C'est devant notaire ? C'est par une déclaration aux impôts ?
Il est toujours préférable de faire un acte notarié parce que, évidemment, ce sera enregistré et on pourra le retrouver. Et la force de la preuve est beaucoup plus importante.
Évidemment.
Donc, oui, ça a un coût qui reste, somme toute, très minime.
Est-ce qu'il y a d'autres alternatives possibles ?
Oui, bien sûr. Donc, deuxième possibilité, je fais un contrat de bail à mon enfant. Et là, si je lui fais payer un loyer de marché, pas de problématique, hein, on est sur une location classique. Si je minore la valeur de marché du loyer ou si je m'abstiens de percevoir le loyer, là, l'administration fiscale est encore une fois en droit de requalifier cette opération en donation indirecte. Et donc, avec tous les coûts et les implications que ça induit, y compris le rapport à la succession. Et en plus, comme c'est un bail de loi 89, eh bien, je suis plus ou moins contraint, là encore, pour récupérer le bien si j'en ai besoin, parce que à la retraite, j'ai envie de le louer pour avoir des revenus complémentaires, etc., etc.
Est-ce que tout ce que vous venez de nous dire, qui, on va dire, est descendant des parents vers les enfants, est valable dans l'autre sens ? En clair, si moi, enfant, je loge mes parents, est-ce que le même schéma que vous venez de nous exposer est retournable, entre guillemets?
Exactement. D'accord. Puisqu'effectivement, cette solidarité intergénérationnelle prévue par le Code civil va évidemment des parents vers les enfants, mais de la même manière, des enfants vers les parents. Les parents devenus retraités, ayant des revenus bien moindres, qui pourraient se retrouver en difficulté vis-à-vis d'un loyer à payer, pourraient effectivement s'appuyer sur les revenus de leurs enfants. Donc il y aurait une solidarité entre tous les enfants pour apporter cette aide aux parents.
Merci beaucoup Delphine. Delphine Pasquier, dans les coulisses du patrimoine ce matin, pour l'ingénierie patrimoniale de Bred Banque Privée. À très bientôt. Un petit coup d'œil sur le marché, le CAC 40 qui progresse de 0,37%, 6115 points, grimpe aussi ailleurs en Europe et l'eurodoll est à 99,54.
BFM Business avec Les Échos, nos réponses pour bien gérer votre patrimoine.
Quel est le nouveau pouvoir d'achat immobilier des Français ? Question bien évidemment brûlante en cette période d'inflation et de hausse de taux. Question qui occupe donc la une des Échos Patrimoine en partenariat avec BFM Business. Et on accueille pour en parler Marie-Christine Sonquin. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Cédric.
Rédactrice en chef patrimoine des Échos. Alors cette hausse de taux, effectivement on en parle partout et puis ça va en cadre d'actualité avec la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'elle a déjà impacté le pouvoir d'achat des ménages?
Alors la réponse est oui, hein, incontestablement. Il y a une étude qui vient de sortir, qui a été faite donc pour les Échos par Vous Financez les meilleurs agents, et on voit que dans certaines villes, en termes de pouvoir d'achat, sur 9 mois, c'est-à-dire depuis le début de l'année, l'impact est déjà extrêmement important. Alors ce qui est très parlant, hein, c'est quand on parle de ce pouvoir d'achat en termes de mètres carrés, dans certaines villes, vous avez perdu jusqu'à 25 mètres carrés de pouvoir d'achat. Alors, il y a toute une liste, hein, puisque les principales villes ont été étudiées. Il y a Saint-Étienne, Le Mans. Là, il y a vraiment une très grosse perte de pouvoir d'achat. Alors, évidemment, moins les prix sont élevés, plus cet impact est important.
Ouais.
Mais vraiment, ça a déjà eu un impact vraiment très significatif. On part d'un taux qui était, grosso modo, indice au mois de janvier, pour arriver à un taux en moyenne de 1,75. Et déjà, ce mouvement-là, ça a créé vraiment une
chaque
distorsion.
Chaque décimal fait disparaître des mètres carrés.
Absolument, c'est très important. Et si on veut retenir, grosso modo, ce qui se passe avec la hausse des taux, c'est que quand vous avez les taux qui augmentent de 1%, eh bien, c'est comme si les prix de l'immobilier augmentaient de 10%. Donc ça a un impact vraiment extrêmement important et on peut supposer, bien sûr, avec le durcissement de la politique monétaire de la BCE qui se profile pour faire face à l'inflation, on peut anticiper que ce mouvement va se poursuivre et que les Français vont continuer à perdre du pouvoir d'achat immobilier jusqu'à la fin de l'année en 2023.
Alors ça, c'est parce qu'ils peuvent emprunter moins. Mais est-ce qu'il y a déjà une conséquence sur les prix. Est-ce que, en clair, le fait que, au lieu de pouvoir emprunter, disons, 220 000, je ne peux plus emprunter que 200 ou 190 000, est-ce que ça a un impact sur les prix, en clair ? Est-ce que cette hausse des taux entraîne une baisse de prix ou est-ce que le marché reste pour le moment dynamique ?
Je vous dirais pas encore.
D'accord.
C'est la réponse qu'on a parce que quand on regarde effectivement la dynamique du marché immobilier, alors c'est vrai qu'on observe quand même un certain ralentissement en termes de volume de transactions, mais ce marché il reste extrêmement dynamique parce qu'on part de très très haut. Il y a eu plus d'un million de ventes, donc le marché il continue sur sa lancée. Vous savez, le marché immobilier il évolue selon des cycles longs. C'est un peu comme un paquebot qui avance. Le temps que le paquebot s'arrête et commence à reculer, il y a un laps de temps qui est quand même assez important. Le marché immobilier, ce n'est pas un marché liquide comme le marché des actions où vous avez une volatilité, vous avez une rapidité de réaction. Non, le marché immobilier, il continue sur sa lancée. Non seulement les prix n'ont pas baissé, mais les prix, très souvent, ont continué à monter. C'est ce qui explique aussi partiellement cette perte de pouvoir d'achat, puisque d'un côté, vous avez les taux qui sont plus chers, et de l'autre côté, les prix qui sont de plus en plus élevés. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que ça ait un impact sur les prix de l'immobilier. Alors maintenant, est-ce que ça va durer ? Personnellement, ça m'étonnerait beaucoup. Parce que,
il y a un moment où ça va se croiser.
Alors, évidemment, les taux d'intérêt, c'est vraiment une des données les plus importantes pour prendre le pouls du marché immobilier. Si on se réfère au passé, ben, on peut voir que les cycles du marché immobilier, ils ont été dessinés eh bien, par les taux d'intérêt et aussi par le fait que les banques sont plus ou moins généreuses avec le robinet du crédit. Quand il y a une baisse des prix immobiliers, c'est parce que non seulement les taux sont plus élevés, mais aussi parce que les établissements de crédit ont une politique nettement plus restrictive dans l'attribution de ces crédits.
Dans ces politiques restrictives, il y a effectivement ces taux qui grimpent et qui sont, vous l'avez exprimé, on le retrouvera dans votre numéro des Échos au patrimoine, qui sont là pour gêner le marché. Mais il y a aussi d'autres aspects, comme le taux d'usure qui vient, bon c'est une conséquence, mais qui vient gêner encore un peu plus aux entournures bon nombre d'intervenants du marché et pas que des primo-accédants.
Alors, c'est vrai que le taux d'usure a un impact. Cet impact, ça peut empêcher des ménages, et c'est très concret, hein, j'en discutais juste avant de venir sur le plateau avec un banquier qui me disait, effectivement, il y a beaucoup de dossiers qui sont bloqués du fait du taux d'usure.
Certains nous disent presque un sur deux. Hein.
Alors, oui, c'est pas faux, mais est-ce que c'est un mal ? Il faut voir que le taux d'usure, il faut revenir aux fondamentaux du taux d'usure. À quoi ça sert un taux d'usure ? Ça sert à protéger celui qui emprunte. Parce que ça empêche effectivement l'établissement d'accorder un crédit à un taux très haut. Mais ce taux très haut, pourquoi est-ce qu'il est très haut ce taux ? C'est parce qu'il y a un risque de défaut. Alors, est-ce qu'il vaut mieux ne pas emprunter, rester locataire et pouvoir continuer à payer son loyer, d'autant que maintenant les loyers sont quand même assez largement plafonnés, ou est-ce qu'il faut emprunter à un taux, comme le dit l'expression, usuraire, et risquer de se retrouver étranglé, de voir finalement son bien saisi et vendu à vil prix, et de se retrouver sans logement et toujours endetté.
Bien sûr.
Personnellement, je pense qu'il est quand même préférable dans cette conjoncture, quand on est vraiment ric-rac, bah finalement, de rester locataire. Alors certes, le rêve de l'immobilier il devient inaccessible pour certains ménages. Il faut être patient. Les prix de l'immobilier vont très probablement d'ailleurs s'ajuster. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir un crack immobilier, mais...
Une érosion...
Il y aura très probablement une érosion. Si la période n'est pas favorable pour emprunter, il vaut mieux patienter, rester locataire.
Est-ce que dans ce calcul du taux d'usure, il y a énormément de critères. Il y a le taux d'emprunt, puis il y a l'assurance, il y a les frais de dossier. Est-ce que justement, pour continuer à pouvoir emprunter, et si possible à moindre coût, il n'y a pas d'autres leviers à appuyer, et notamment par exemple celui de cette assurance emprunteur dont on rappelle que de façon maintenant totalement officielle, c'était au 1er septembre, on
peut... Avec la loi Lemoine, effectivement, voilà. Maintenant vous êtes totalement libre, vous pouvez résilier votre assurance emprunteur pour prendre une assurance emprunteur moins chère. Donc effectivement, ça fait partie des leviers qui sont extrêmement efficaces pour abaisser le coût global de votre crédit qui entre dans le calcul du taux du TAEG. Hein, donc, ça fait partie des leviers. Le coût de cette assurance, ça peut représenter jusqu'à un tiers, effectivement, du coût total de votre crédit. Mais il ne faut pas oublier que les deux autres tiers, c'est quand même le coût de l'argent. Et puis, tout dépend quel est votre profil. Si vous êtes jeune, en bonne santé, vous pouvez effectivement choisir un autre assureur que celui de l'assurance groupe de votre banque. Vous allez trouver des conditions beaucoup plus favorables en faisant ce qu'on appelle une délégation d'assurance. Et donc, ça peut vous réduire de façon assez considérable le coût de cette assurance. Maintenant, si vous avez un profil nettement plus risqué, ça ne sera pas le cas. Et puis, il peut y avoir des effets pervers, effectivement, parce que l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Il ne faut pas oublier aussi quels sont les fondamentaux de l'assurance. Les fondamentaux de l'assurance, c'est une mutualisation du risque. Donc, à partir du moment où vous segmentez le marché, vous allez avoir d'un côté les jeunes en bonne santé qui ont un profil de risque, donc une sinistralité extrêmement faible, donc à qui on va proposer des prix d'assurance extrêmement bas. Et puis, d'un autre côté, ceux qui présentent un risque aggravé parce qu'ils ont été malades, parce qu'ils sont plus âgés, parce qu'ils sont fumeurs, etc. Donc, à partir du moment où vous segmentez le marché, vous risquez pour tout un type de population d'avoir à proposer des tarifs beaucoup plus élevés. Donc, il faut aussi se méfier des effets pervers que peut avoir cette segmentation du marché.
Le pouvoir d'achat immobilier des Français, qui est à la une des éco-patrimoines. Marie-Christine Sonquin, est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est la question qui revient régulièrement, est-ce qu'aujourd'hui c'est le moment d'acheter pour un investisseur?
Alors, si vous êtes investisseur, vous allez observer plusieurs données, et la donnée essentielle, c'est celle, bien évidemment, de la rentabilité. Donc, à partir du moment où les prix sont extrêmement élevés, d'une part, et que d'autre part, les taux des crédits augmentent, évidemment, le coût final de votre opération va être quand même plus élevé. Mais vous pouvez quand même faire certaines bonnes affaires. En ce moment, il y a pas mal de personnes qui remettent sur le marché ce qu'on appelle les passoires thermiques, parce que justement, ils n'auront plus la possibilité de faire grimper les loyers. Alors, je reviens donc à ma position d'investisseur. Vous allez avoir envie d'investir aussi peut-être parce que l'immobilier, c'est quand même quelque chose qui vous protège de l'inflation. Enfin, théoriquement, ça vous protège de l'inflation.
Théoriquement, ça prend l'inflation.
Voilà, mais ça reste quand même une théorie, parce qu'on s'aperçoit, quand on fait des études sur le long terme, que les loyers sont toujours en train de courir un petit peu après l'inflation, d'une part. Et puis, d'autre part, il ne faut pas oublier que maintenant, jusqu'au mois de juin 2023, l'IRL, l'indice de référence des loyers, est bloqué à 3,5. L'inflation, elle est à 6. C'est vrai que le fait que l'immobilier vous protège de l'inflation, c'est quand même un petit peu moins vrai. Donc, ça peut quand même faire réfléchir un investisseur. Parallèlement, les charges continuent d'augmenter. Les impôts fonciers continuent d'augmenter parce que
on a vu la taxe foncière.
La taxe foncière, même si effectivement votre municipalité n'a pas augmenté le taux qui s'applique à la base imposable, il ne faut pas oublier que justement avec l'inflation, la base imposable, elle a été revalorisée. Donc même si vous avez zéro de taux d'augmentation de la part de votre municipalité généreuse, votre taxe foncière, elle va quand même augmenter. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et puis il y a une chose aussi extrêmement importante quand vous êtes un investisseur, c'est que vous allez regarder ce qu'on appelle la prime de risque. La prime de risque, c'est quoi? C'est la différence entre le rendement de votre placement immobilier et le rendement des emprunts d'État sans risque. Alors, quand vous aviez l'OAT 10 ans, c'est-à-dire l'emprunt de référence de l'État français à zéro, et que vous aviez, ça n'a pas changé, un rendement de 3% pour un emplacement premium, c'est-à-dire un emplacement qui ne représente pas beaucoup de risques, un emplacement dans une grande ville, à Paris par exemple. Eh bien, évidemment, l'investissement immobilier présentait un avantage concurrentiel considérable. Maintenant, l'OAT 10 ans, il a plus de 2%.
Eh oui.
Alors, est-ce que ça vaut
le coup ? Ça change le calcul.
Ça change le calcul. Et est-ce que ça vaut le coup de prendre tous ces risques ? Et d'autant plus qu'il y a aussi une donnée qu'il ne faut pas oublier, c'est la donnée fiscale. Parce que vous avez le rendement brut, et puis après, vous avez le rendement net. Alors, certes, il y a tout un tas de dispositifs fiscaux. Vous avez le de Normandie, vous avez le Pinel, vous avez la déduction des déficits. Mais si vous n'avez pas ces leviers fiscaux, il ne faut pas oublier que vos revenus fonciers, ils sont imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qui peut grimper jusqu'à 45%, plus 17,2% de prélèvements sociaux, donc ça vous fait un peu plus de 62% d'impôt sur les loyers. Si vous achetez des produits de taux, vous avez la flat tax, c'est 30%, c'est juste moitié moins.
Il faut faire attention.
Donc l'investisseur, il va quand même faire tous ces calculs-là avant de se lancer dans un investissement immobilier.
Quel est le nouveau pouvoir d'achat immobilier des Français ? C'était la une des Échos Patrimoine que vous retrouverez en fin de semaine, bien évidemment, dans Tout va au kiosque, en partenariat avec BFM Business. Merci beaucoup, Marie-Christine.
Merci, Cédric.
Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des Échos.
BFM Business avec les Échos, nos réponses pour bien gérer votre patrimoine.
Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec 60 Minutes Business et Sandra Gandouin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Votre planning
alors, on va
de
parler...
ce jour.
Et oui, on va parler de cette question très claire. Faut-il taxer les super profits des énergéticiens, des grandes entreprises qui sortent gagnantes de la crise énergétique? La question est claire, mais la réponse, elle est beaucoup moins. On va en parler avec Jean-Marc Daniel. L'offre d'énergie doit correspondre à la demande. C'est la Maison-Blanche qui s'insurge ce matin contre la décision de l'OPEP+ de réduire sa production de pétrole annoncée hier. On en parlera avec Benjamin Louvet en direct dans 60 Minutes Business. Et puis, on s'intéressera aux licornes vertes. Vous savez qu'Emmanuel Macron veut créer 25 licornes vertes, sobres, d'ici quelques années. Est-ce que cet objectif est atteignable ? On posera la question à Caroline Néron et Aymeric Grange. Et puis, à 12h30, on parlera, évidemment, on répondra aux questions des auditeurs téléspectateurs avec Lorraine Goumeau.
C'est à suivre, 60 Minutes Business dans un instant. Le CAC 40, lui, progresse de 0,37%. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin, 10h, pour une nouvelle session de BFM Patrimoine. À demain, très bonne journée.
C'était votre programme avec Corum L'Épargne, les spécialistes de l'épargne qui vous accompagnent dans vos projets d'avenir. Plus d'informations sur corum.fr.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.